L'écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l'environnement où ceux-ci se développent. Cela demande de s'asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de vie et de survie d'une société, pour remettre en question les modèles de développement, de production et de consommation. Il n'est pas superflu d'insister sur le fait que tout est lié. Le temps et l'espace ne sont pas indépendants l'un de l'autre, et même les atomes ou les particules sous-atomiques ne peuvent être considérés séparément. Le pape François dans Laudato Si, 138. Tout est lié, mais comment est-ce lié ? Comment s'imbriquent les rouages des causes et des conséquences entre les questions écologiques, politiques, éthiques, anthropologiques, etc. Fleur de Sel lance la réflexion bien plus qu'elle ne la clôt.
Alors Olivier, aujourd'hui avec vous, nous allons chercher la cause des causes de tous les maux du monde. Vaste programme.
Oui, c'est-à-dire on entend parfois dans les repas de famille des choses comme le problème c'est la finance, ou quelqu'un d'autre va dire non, le problème c'est les politiques qui s'en mettent plein les poches. Et puis un troisième convive donnera encore un autre point de vue. Et alors tout ça a l'air plus ou moins vrai, et donc lequel a raison? Et donc on vous propose aujourd'hui de cartographier, de démêler un peu cette chaîne du tout est lié dont parle le pape.
Et nous vous invitons à notre repas familial radiophonique. Olivier, vous nous proposez aujourd'hui de décortiquer les causes des catastrophes actuelles. Alors ce n'est pas facile, hein. D'ailleurs le pape nous répète à plusieurs reprises dans Laudato Si que tout est lié. Par où pourrait-on donc commencer, Olivier ?
Bah oui, c'est complexe, c'est d'ailleurs sûrement la première chose qu'on peut dire. Souvent quand on s'intéresse à un problème, on a tendance à faire abstraction de tout ce qui l'entoure pour bien l'appréhender. Et ici, ce n'est pas la bonne méthode, puisque tout est lié. Et cette complexité, d'ailleurs, c'est un peu ce qui était dit dans la phrase d'introduction, elle est intéressante parce qu'elle nous oblige à nous écouter humblement les uns les autres. Puisque personne ne peut prétendre tout savoir, on a une grande réflexion collective à lancer. Et alors, plus concrètement, pour faire face à cette complexité, je propose de dérouler les thèmes suivants, écologie, économie, politique, et puis être humain.
Donc je retiens... Et nous allons nous écouter humblement. Donc pourquoi précisément ces thèmes, Olivier ?
Eh bien, parce qu'ils proposent une progression logique, puisque chaque cause nous amène, une fois qu'on l'a traitée, à la cause qui la précède finalement. Si on commence par l'écologie, détérioration de l'environnement. Alors ça, pour nous, ce n'est pas une cause, mais une conséquence. Et on va dire que c'est notre point de départ, un peu le signal d'alarme qu'on voit prioritairement. Alors d'où vient le problème ? Pourquoi l'environnement est détérioré ?
Alors maintenant, l'économie.
Les ravages de l'environnement découlent de la gestion des ressources, de la consommation d'énergie, de la gestion des déchets. Et ce sont des questions liées à la production des richesses, donc à l'économie, effectivement. Voilà donc notre deuxième thème. Alors d'où vient le problème ? Pourquoi l'économie dysfonctionne ?
Alors à présent, la politique ?
Oui, parce qu'un modèle économique, c'est un outil au service d'un projet social. Et donc, il s'agit d'une question politique. Politique au sens noble, au sens de ce qui fixe le cap. Et donc voilà le troisième thème. Alors, pourquoi le politique est impuissant ?
Maintenant, l'aspect anthropologie ?
Eh oui, parce qu'au bout du bout, c'est le cœur de l'homme qui est en cause. C'est lui qui est acteur politique, c'est lui qui définit le système politique, c'est nous qui créons tout ça. Et alors, une fois arrivé là, on peut se résigner dans un constat d'impuissance, puisque on va dire l'homme, il est tel qu'il est. Et puis, on peut quand même essayer de lever cette impuissance par un moyen ou par un autre.
Ah, j'espère bien que nous y arriverons, Olivier, parce que sinon, ce serait bien frustrant. Mais reprenons du début. L'écologie, c'est un symptôme, très bien. Bon, on peut donc directement aller à l'économie.
Tout à fait. Alors, dans ce thème de l'économie, là, c'est pareil. C'est un grand domaine extrêmement vaste et il y a tout un tas de façons d'aborder le problème. On peut dire, comme je disais en introduction, il y a des gens qui vont dire le problème c'est la finance, et ça s'arrête là.
Je vois bien les repas de famille, c'est souvent ça.
On les voit, ce genre de choses. Alors on pourrait dire des choses sur la finance, effectivement c'est une idée qui est intéressante à la base, puisqu'il y a des gens qui ont de l'argent et pas de projet, d'autres qui ont des projets et pas d'argent, et donc c'est... Alors on pourrait questionner aussi le fait qu'il y ait des tels écarts de richesse entre les riches et les pauvres qui fassent qu'on ait vraiment besoin de la finance, quoi qu'il en soit. Ça, c'est une idée qui revient souvent. Souvent, une bonne idée au départ, elle va se corrompre au fil du temps. Et on peut dire que c'est le cas de la finance, malheureusement. On peut renvoyer aux travaux de Frédéric Lordon et plus globalement de tous les économistes atterrés. D'ailleurs, je mettrai dans le podcast de l'émission toutes les références de tout ce dont je vais parler. Voilà, Frédéric Lordon qui dit que, qui démontre hein, que la finance participe aujourd'hui très très peu à l'économie réelle. Et puis elle participe aussi à déséquilibrer les richesses. Là, on peut citer Oxfam qui disait il y a très peu de temps, les 26 milliardaires les plus riches ont désormais entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc la finance. Alors après, il y a des gens qui vont dire, le problème c'est la création monétaire. Alors c'est un autre domaine. Pour ça, alors on est obligé de passer très très vite. Hein, mais l'intérêt c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose à en dire.
Là, c'est votre beau-frère qui parle. Hein.
Là, c'est mon beau-frère. Il m'agace, celui-là. Il parle toujours de la création monétaire. Alors, il a vu la vidéo de Paul Jorion sur le sujet. Donc, je la mettrai aussi dans le podcast. Et j'en profite quand même de ce sujet pour dire un mot sur le complotisme.
Ça, c'est votre cousin.
Ça, c'est mon cousin. Parce que mon cousin et mon beau-frère, ils se cherchent aussi beaucoup là-dessus. Le complotisme... alors voilà, c'est Étienne Chouard pour le coup qui décrit très bien la chose. On a l'impression que tout ce qui est contraire à l'idée un peu courante, l'idée officielle, eh ben on peut très vite se faire taxer de complotiste. Et Étienne Chouard nous dit mais attendez, évidemment que tout n'est pas complot parce que c'est pas possible. Mais par contre dire qu'il n'y a aucun complot et taxer de complotiste dès qu'il y a un regard un peu différent. Eh ben, c'est d'une certaine manière très naïf également, puisque des complots, il y en a depuis les cours d'école, on est deux et puis on s'arrange pour que le troisième n'ait pas son goûter, etc. Donc, voilà, pour ce qui est de la création monétaire, et puis il y en a toujours, vous connaissez Mathilde très bien la famille apparemment, mais il y en a toujours un pour dire, mais non, mais c'est le modèle économique le problème.
Absolument.
Donc là, on peut parler du capitalisme, on peut parler du libéralisme, de la mondialisation, simplement sur le capitalisme, et c'est pour moi vraiment juste l'occasion d'ouvrir une porte et pas de faire des grands débats, mais critiquer le capitalisme, ça ne fait pas de celui qui le critique un stalinien.
Personne ne le
pensait, j'en suis convaincu, mais c'est parce que mon oncle l'a dit une fois ou l'autre. Et voilà, on peut même s'imaginer que dans 50 ans, de la part des chrétiens, la haine du capitalisme, à cause des ravages qu'il aura créés sur la création, qu'il aura généré, sera sûrement beaucoup plus forte encore que la haine actuelle du communisme.
On se donne rendez-vous, Olivier.
On peut se donner rendez-vous dans 50 ans. Voilà. Et donc, voilà, il n'y a pas que le capitalisme d'un côté et le communisme sanglant de l'autre. Et puis, on peut aussi se poser la question de la place du modèle de l'économie dans l'ensemble de la société. Voilà. Alors, le libéralisme, j'ai toujours un grand-oncle aussi qui, quand il a bu un coup de trop, il a une phrase un peu qui dit « Mais de toute façon, c'est l'application de l'anarchisme au domaine de l'économie. Il est provocateur, mon oncle. » Mais c'est vrai que c'est intéressant comme pensée. Libéralisme comme l'anarchisme de l'économie.
Et là, il y a votre tante après qui va parler de la mondialisation en critiquant votre petit-neveu qui a fait une école de commerce.
Et oui, elle est très peinée de voir tout ce travail qui part en Chine, etc. Et effectivement, puisqu'il est contraignant et donc coûteux de produire de manière vertueuse, c'est toujours le moins vertueux, à l'échelle mondiale, puisqu'on parle de mondialisation, qui remporte la mise. Alors on comprend que ça amplifie les problèmes et que la grand-tante soit peinée. Mais inutile de détailler davantage tout ça, parce que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de dire qu'il y a effectivement, au sein de l'économie, un ensemble de modes de fonctionnement qui interagissent les uns avec les autres. Il est bon de les étudier et de jouer le jeu. C'est-à-dire, si je renonce à mes croyances économiques, quel rôle endosse l'économie dans le désastre écologique actuel?
Bon, alors, et si on passait à la politique, Olivier, car comme vous le disiez, si les logiques de l'économie détériorent la création, c'est à celle qui la contrôle, c'est-à-dire à la politique, de résoudre le problème. Qu'en pense votre grand-père?
Ah, le grand-père, il est sage, il a une vision large. Il commence toujours par une image. Il dit « Souvent, on voit la démocratie comme un port paisible dans lequel notre société serait amarrée. » Je ne prends pas la voix chevrotante, hein, mais on imagine. Il dit qu'il faut voir la démocratie comme un phare, toujours à l'horizon, vers lequel on ne fera jamais que tendre lorsqu'on y prêtera attention, lorsqu'on cultivera la démocratie, et dont on s'éloignera sans s'en rendre compte, en dérivant dès qu'on se croira arrivé au port. Alors pour le dire autrement, la démocratie ne va pas de soi. On en a parfois une vision idéalisée qui repose sur les piliers suivants. Alors des citoyens parfaitement lucides et éclairés, un système parfait, c'est-à-dire qu'une constitution dans laquelle il n'y a pas de perte, entre guillemets, entre la volonté du citoyen et l'action politique, et puis des élus pleinement guidés par l'esprit de service. Et sur chacun de ces trois piliers, aucune démocratie ne sera jamais parfaite. Ce sera toujours un phare à l'horizon.
Heureusement que votre grand-mère est un petit peu plus lucide de son côté.
Oui, elle parle beaucoup de la lucidité du citoyen. Et puis elle me racontait qu'elle a vu, parce qu'elle regarde beaucoup la télé, elle regardait qui veut gagner des millions. Et il y a une question, qu'est-ce qui tourne autour de la Terre ? Alors, soit le Soleil, soit la Lune. Alors nous, on sait bien que la Lune tourne autour de la Terre. Et le vote du public a favorisé le Soleil, malgré la demande du présentateur qui disait « Seuls ceux qui savent donnent une réponse ». Et effectivement, comment peut-on attendre une réponse éclairée et lucide à des questions politiques extrêmement complexes sur l'Europe, etc., si on se trompe sur des questions aussi simples ? Et je ne veux surtout pas dire que les gens sont bêtes, ma grand-mère ne veut pas dire ça, et qu'il faut leur retirer le droit de vote, mais simplement, la conscience citoyenne, c'est un élément incontournable et qui demande énormément de temps et d'implication. Et donc, on peut simplement constater que le premier pilier qui serait dans notre port, le port un peu rêvé, fantasmé, il est bien fragile.
Alors là, on retrouve votre voisin qui arrive toujours au moment du dessert. Il aime bien la perfection de la Constitution.
Oui, lui, il passe beaucoup de temps sur Internet, il regarde des vidéos et il en a trouvé une où c'est une simulation. Il y a 5 candidats virtuels et puis pour chacun des 5 candidats, il y a tout un ensemble d'électeurs qui en fait a classé ces 5 candidats selon ses préférences. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur cette vidéo, ils ont pris 5 systèmes d'élections différents. Il y en a un proposé par Condorcet à l'époque, il y a le système majoritaire à un tour, à deux tours, etc. Donc tous des systèmes qui sont légitimes. Et ils ont fait de telle sorte que, suivant le système choisi, chacun des candidats se retrouvait à être élu. Alors cette vidéo, elle nous permet de nous dire, mais en fait c'est tout simplement, c'est vrai, il n'y a pas qu'une façon de voir les choses, il n'y a pas qu'une façon de faire une démocratie.
On avait déjà d'ailleurs parlé de ça sur Fleur de Sel l'année dernière. Pour le troisième pilier, on va parler de l'esprit de service de l'élu. Vous avez bien un fonctionnaire dans votre famille, Olivier.
Oui, et puis il exprime beaucoup avec force le fait... Alors, il ne veut pas faire de l'élu bashing, il veut pas s'attaquer aux élus, mais voilà, son analyse, c'est de dire... mais regardez, les élus locaux, souvent, ils sont très vertueux. Et puis, plus on monte dans les étages, et plus il y a des soupçons de corruption, etc. Et donc, on peut se demander, mais de manière mais même très pragmatique, si les structures du pouvoir sont organisées de façon à... Il est un peu modèle start-up. Il dit, est-ce que c'est fait pour maximiser le service du bien commun ? Parce qu'effectivement, l'homme politique, il est soumis à son ambition personnelle. Et puis, il va falloir qu'il exacerbe cette ambition pour écraser, on sait, les enjeux de concurrence énormes qu'il y a dans les sphères du pouvoir. Et donc, par quel miracle, finalement, il pourrait être étanche à tout ça et rester dans le service du bien commun. Donc, le troisième pilier, c'est-à-dire la capacité de l'élu à servir ses frères, là, c'est pareil, c'est un pilier qui est fragile.
Alors là, nous arrivons au moment du digestif. Avec ce dernier pilier, on sent qu'on approche du dernier thème, Olivier. Et vous sentez y pointer les limites humaines.
Alors, effectivement, il y en a qui vont dire encore dans la famille que le problème, là, c'est à l'heure du dessert, quand on en arrive au dessert, il faut bien conclure. Il y en a qui disent le problème, il est dans l'homme. Et c'est vrai, l'homme, il a une part d'égoïsme. L'être humain, il a peur de la mort. Il tend à vouloir accumuler, à s'agiter pour essayer de trouver des solutions face à cette peur de la mort. Il cherche à laisser une trace. D'ailleurs, je recommande les travaux de Patrick Vivray sur le sujet.
On retrouvera toutes ces références sur le podcast de Fleur de Sel.
Absolument. Tout sera noté. Mais ce constat, c'est-à-dire l'être humain, c'est lui le problème, à la fois il est stérile, parce que dans ce cas, on ne peut rien faire contre la nature humaine. Et puis aussi, il est inabouti. Parce qu'on peut se poser la question, mais comment expliquer que ce soit la même nature humaine qui a donné naissance au fil de l'histoire ? Tantôt à des sociétés guerrières, destructrices, violentes, et tantôt à des sociétés harmonieuses. Alors, c'est jamais complètement l'un ou complètement l'autre, mais il y a quand même des vraies différences. Et à l'heure actuelle, au Bhoutan, on vante beaucoup les mérites du Bhoutan, par rapport au Texas, qui est un État un peu plus... qui est plus penché sur le port d'armes, etc.
Vous nous faites des comparaisons quand même, Olivier. Vous allez loin.
Ce que je veux dire, c'est que c'est bien la même matière humaine qui donne ces sociétés radicalement différentes.
Alors, pour aller plus loin ?
Pour aller plus loin, il est intéressant d'observer l'effet des structures sur l'homme. Alors, on peut reprendre, j'ai abordé le libéralisme très rapidement tout à l'heure, on peut reprendre un peu l'effet du libéralisme sur l'homme. La phrase bien connue qui fonde le libéralisme et qui dit, donc c'est la phrase d'Adam Smith, « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » Sous-entendu, s'ils servent leur propre intérêt, ils vont faire des bons produits et tout le monde sera content. Ben, cette phrase-là, elle est indigne à mon cœur de chrétien. Parce que en prétendant servir son égoïsme, ce qui est quand même, d'une manière un peu schématique, le chemin du diable, si on veut rendre les choses très manichéennes, servir son égoïsme, ben, on servirait, comme par magie, on ne sait pas très bien pourquoi, ses frères, ce qui est plutôt le chemin de Dieu. Donc on passe de l'un à l'autre, voilà, comme par magie, avec une phrase. Or, bien évidemment que l'homme, il est puissamment égoïste, mais il le devient d'autant plus si le système dans lequel il est, du matin au soir, il valorise le fait de l'être. Et on peut parler de l'effet du capitalisme aussi sur l'homme. Faire briller l'argent à longueur de publicité, ça tire, ça titille cette corde de la possession, ça la surexcite, et ça atrophie d'autres valeurs, par exemple celle de l'évangile. Au final, les règles du jeu incitent effectivement l'homme à être un loup pour l'homme. Et alors c'est trop facile ensuite de constater, mais tu vois bien, l'homme est un loup pour l'homme. Voilà, on peut se demander si c'est effectivement une fatalité.
Si je vous suis bien, Olivier, et si je vous devance même, on en arrive à la proposition finale dont vous parliez en introduction. Puisque le système peut agir négativement sur l'homme, comme il le fait actuellement, pourquoi ne pas aller vers un système qui valoriserait un comportement vertueux ? C'est bien ça ?
Mais vous lisez dans mes pensées, Mathilde. Il faut que je fasse attention. Ben, c'est exactement ça. Un système qui valorise, encourage l'expression des bons côtés de l'homme et qui dévalorise les mauvais penchants. Alors, c'est un peu Yaka Faucon de dire quelque chose comme ça. Mais si je reviens à l'idée du phare plutôt que du port, c'est bien à une attention permanente et à un réajustement permanent qu'il faut consentir. Se croire arrivé, c'est la certitude qu'on est en train de se perdre. Et alors, rien ne change en un jour, d'autant plus que, en fait, ce système, l'homme, dans le système, l'homme, il est à la fois agissant, c'est l'acteur qui définit les règles du jeu, et il est impacté par ces mêmes règles. Et donc, dans ce genre de système, on est un peu sur une pente glissante, puisque l'homme qui est abîmé par un certain nombre de concepts ou de valorisation d'idées, ben, il devient lui-même acteur et donc il abîme lui-même le système.
Mais ce n'est pas insoluble tout ça non plus.
Non, ce n'est pas insoluble. Effectivement, il y a des repères qui nous sont donnés depuis l'extérieur, parce qu'il y a d'autres sociétés, d'autres modèles qui peuvent nous éclairer, ainsi que des textes comme notamment les évangiles qu'on connaît bien, et puis des penseurs de notre temps, et aussi depuis l'intérieur. Le pape François nous dit en Laudato si 205, « Il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager au plus profond des cœurs humains. » Voilà, il y a toujours Dieu qui insuffle dans les cœurs humains aussi du beau, même si on est invité à produire du pas beau par un système.
Merci Olivier. Alors je rappelle votre cheminement, écologie, économie, politique, homme, c'est bien ça ?
Oui, et alors au passage, l'important c'est de proposer une méthode, mais tout ça c'est qu'un petit bout du problème. On aurait pu dire, le problème c'est la démographie, il y a trop de monde sur Terre, ou le problème c'est l'immigration, ou le problème ce sont les religions, il y en a même qui vont dire ça absolument, ou le problème ce sont les lobbies. Tous les avis existent, et non pas d'ailleurs qu'ils se valent tous, mais tout simplement, chacun est invité à replacer tous ces éléments, non pas de manière émotionnelle à dire c'est ça le problème, mais à replacer ça dans sa propre chaîne des causes-conséquences. Et plus profondément encore, bah, chacun est invité à reconsidérer ce qui lui semble évident, mais ça j'en parle pas plus puisque j'en parle déjà à longueur de méditation.
Quelques suggestions de lecture ?
J'en ai parlé au fil de l'apport, j'ai rien d'autre spécialement à dire en plus de ça, mais je mettrai tout ça bien sûr dans le podcast.
Ah, merci Olivier pour cet apport.